simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Pour mieux comprendre le présent, il est nécessaire de faire un tour dans le passé. La mémoire des luttes vient nous éclairer, nous ragaillardir et nous rappeler que rien n'est figé. Nous faisons partie de ce mouvement qui avance au gré des rapports de force que la classe des exploités, des dépossédés, arrive à faire vivre. Même si la période est au recul, ne baissons jamais les bras. Au début des années 1980, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, les ondes se libèrent pour se libéraliser par la suite. Les expériences sont multiples sur tout le territoire. Avec Christophe Soulier, nous allons évoquer l'expérience de Tôle Ondulée sur Radio Trouble Fête, une émission anticarcérale qui voit le jour sur Limoges au tout début des années 80. Christophe Soulier est également l'auteur d'un excellent livre sur l'histoire du CAP, le Comité d'action prisonnier, Liberté sur parole. Et ce que vous entendez derrière moi, c'est le générique de Tôle Ondulée, le Nabucco de Verdi, le cœur des esclaves.
Si je prends l'origine de notre émission, c'est la prison.
Est-ce que tu peux nous parler de la création de Tôle Ondulée?
Donc la date, c'est simple. On va dire que c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81. Moi, je suis sorti de prison à la fin des années, fin 1980. Il y avait déjà les radios libres qui existaient, qui étaient réprimées, qui étaient saisies. Et donc, moi, je suis arrivé sur Limoges et il y avait une radio libre qui s'appelait Radio Trouble Fête par dérision par rapport à RTF, donc par rapport à l'ORTF, qui avait fait des émissions pirates et qui avait été localisée par la police. Il y avait des systèmes goniaux pour localiser les émetteurs et ils avaient été arrêtés, le matériel saisi. Bon, on en était là. Tout d'un coup, le 10 mai 81, comme on sait, Mitterrand est élu. Donc il y avait cette promesse de libéraliser les ondes. Lui-même, Mitterrand, avait été arrêté lors d'une émission pirate que le Parti Socialiste avait sa propre radio libre, qui s'appelait Radio Riposte. Et donc il y avait, dès le 10 mai, ou peut-être, je ne sais pas, dans les 15 jours qui ont suivi, la radio, cette fameuse radio de Limoges, s'est remise à émettre. Sans cadre, hein, comme ça, à partir d'un local. Et moi, tout de suite, j'ai vu l'occasion de faire quelque chose par rapport à la prison. Je venais de faire plusieurs années de prison. J'étais très sensible à la question des ondes parce que j'écoutais la radio. Et avoir tout d'un coup une voix libre qui arrivait en prison, ben, c'était un espace qui s'ouvrait. Alors, il y avait une femme qui était animatrice, dans cette radio, qui était par ailleurs avocate, très impliquée dans la critique de la prison. Je ne sais plus comment on s'est connus, mais on s'est rencontrés. Et elle m'a fait venir pour des séries d'émissions sur la prison. Alors que c'était son émission à elle, mais on a fait des émissions de 2 heures à chaque fois, où elle m'interviewait, on discutait. Bon. Et après, on a dit, mais c'est vachement intéressant, on peut continuer. Et on a décidé de constituer un collectif pour créer une émission permanente sur le domaine de la prison. Donc à Limoges, à ce moment-là, il y avait encore... c'était la fin, mais il y avait un groupe du CAP qui existait. Le CAP s'est autodissous fin 80 aussi. Hein. Donc c'est la même période, mais les gens étaient là. Et donc c'est avec ces personnes que certains sont venus dans le collectif pour construire cette émission. Alors déjà, on a dit quel nom on va avoir. On a fait comme un brainstorming et on a trouvé Tôle ondulée. On trouvait que c'était marrant. Ainsi est née l'émission Tôle ondulée sur Radio Trouble-Fête. Avant que les radios soient légalisées. Hein.
Une émission de radio, ça remplissait quelle nécessité ?
D'abord, c'était de créer un lien avec les gens au-delà des murs. Hein. Pour nous, c'était affaiblir le mur que de créer des liens. Et on était résolument donc, contre la prison et contre tous les enfermements. Ça, on l'a ajouté après. Donc, c'était une émission de lutte. Après, il y a eu des émissions qui se sont construites. Ici, il y a une radio plutôt catho qui fait une émission de lecture de lettres de prisonniers. Bon, c'était pas notre optique. Après, c'était comment se faire connaître. Ça a été aussi l'autre question. Comment être écouté en prison? Comment les gens proches des détenus pouvaient nous écouter? Et ça, c'était un travail depuis longue haleine. Donc, on a construit nos émissions avec ce qu'on était. Ça correspond à l'autodissolution du CAP, mais c'est pas forcément parce que le CAP s'était autodissous. Il y a eu une dynamique qui était plus celle des radios libres qui portaient ce genre d'initiative. Les ondes passaient les murs. Et donc, qui était une manière vraiment de créer de la circulation. Parce que ce n'était pas nous qui nous adressions aux prisonniers, on espérait donc en retour avoir des positions et des interventions. Ça a été notre optique, c'était de se mettre en lien avec ceux qui étaient dedans et ceux qui étaient autour. Il fallait retrouver les vieilles cassettes, je dois les avoir quelque part, mais on devait quand même pas mal bafouiller, on ne maîtrisait pas du tout ce genre de choses, on avait des électrophones que plus personne ne connaît maintenant avec un saphir ou un diamant. Et donc on était dans l'artisanat le plus complet, pas de régie, on était sur un lien direct entre l'émetteur et l'animateur, il y avait une proximité. Donc on a balbutié, on a essayé d'inventer notre langage, notre forme d'intervention. On voulait quand même aussi être entendu par des professionnels, hein, notre optique, des travailleurs sociaux par exemple. La copine avec qui on était avocate, elle avait bien envie que d'autres avocats entendent aussi. On a commencé à inviter des personnes, je me souviens, un médecin qui intervenait à la prison. C'était un peu comme un challenge pour eux. D'ailleurs, il était à la fois dans la pénitentiaire, mais il était médecin libéral à son compte. Il venait donc il était libre d'intervenir quand même. Et il y avait un côté, je nargue un peu les autres dans la prison, quoi. Parce qu'il nous disait des choses intéressantes sur les pathologies, sur ce qu'il voyait. On a essayé de recueillir des paroles comme ça, qui rentraient pour nous dans notre problématique de critique. Car ça, il y avait bien l'histoire de donner la parole aux prisonniers, mais il y avait l'histoire aussi de développer notre critique. Pendant assez longtemps, on n'a pas eu d'intervention de prisonniers, mais c'était nous qui développons notre expérience, les liens avec qui.
Cayenne, c'est fini. Pas de veine. Plus de soucis, Cayenne, c'est fini. Par de lettres de mon ami, ce n'est peut-être qu'un oubli, Cayenne. C'est fini.
très vite, on a monté un petit réseau avec d'autres émissions dans la même période. C'est ce vent de liberté des radios libres a suscité des émissions contre la prison.
Mais vous étiez en lien avec qui ?
Avec une radio qui émettait sur Fort-Calquier, Radio Zinzid, dans la communauté de Longomaille.
Donc, qui existe toujours.
La Radio Zinzid existe toujours. La personne qui animait cette émission, bon, pour X raisons, elle est partie ailleurs, quoi. C'était quelqu'un qui avait mené des luttes importantes sur l'interdiction de séjour, dans le cadre du CAP en plus. Hein. On l'a su par la suite, on était d'abord en lien, donc on se téléphonait. Il n'y avait pas d'internet à l'époque, hein. Donc c'était le téléphone qui servait de moyen. Et puis il y avait l'émission Transmuraille Express à Toulouse. Donc là, c'était aussi des amis, quoi. On se connaissait depuis un certain temps. Et donc, naturellement, on s'envoyait aussi par le courrier, par le courrier papier. On s'envoyait des textes, on se téléphonait aussi. Et après, on s'est mis aussi on pouvait s'envoyer des cassettes. Des fois, quand il y avait du son, donc ça a pu se faire aussi. Alors nous, on ne savait pas monter, hein. On faisait ça à l'arrache aussi. Et tout ça, on a appris sur le tas. On travaillait avec des cassettes, c'est pas évident, hein, de caler quelque chose. Mais on essayait. Et après, donc il y avait une troisième radio avec qui on était en contact. C'était Radio Ivre, qui était une radio sur Paris, qui avait émergé aussi avec les radios libres, qui était avant. Et il y avait un garçon, on allait se rencontrer, on a fait les déplacements. C'était un garçon qui, lui, était branché plutôt antipsychiatrie, qui était infirmier, je crois. Donc voilà, les infos, le contenu de nos émissions étaient très liés aussi à ce réseau. Après, il y a le collectif Minerve, avec Arlette Samba, qui, elle, ne faisait pas de radio, mais envoyait méticuleusement des textes, des communiqués, donc on pouvait les reprendre. Ça alimentait aussi notre émission. Chacun avait des petits contacts comme ça.
Arlette, elle était la femme d'un prisonnier.
Voilà, Hervé Samba, qui, je crois, était une très longue peine. Hein. Je ne sais pas, c'est pas perpète, mais en tout cas, une longue peine qui avait mené des luttes. Alors lui, on l'a pas connu. Par contre, on a connu et on a interviewé, qui sont venus, un autre garçon qui s'appelait Maurice Loquin, qui s'était coupé des doigts, qu'il envoyait au ministre de la Justice pour se libérer en morceaux, comme il disait. Mais alors, c'est vrai que là, on voyait les limites pour nous de l'action. Les mutilations, pour nous, ça rentrait pas dans... C'était plutôt un truc de désespoir, je sais pas comment. Ça mettait en avant un truc qui, dans lequel on se retrouvait pas.
Et pourtant, ça a été un moyen de lutte très très important, oui, à l'intérieur, hein, oui, oui. Qui a été repris par pas mal de prisonniers. Est-ce que nous, de l'extérieur, on peut finalement juger ou ne pas soutenir ou être sceptique ? Est-ce que c'est à nous, à l'extérieur, de décider, oui, pour l'intérieur ce qui est bon, pas bon, faisable, pas faisable ?
Non, mais je suis d'accord avec toi. De toute façon, Loquin, on l'avait interviewé, on lui a donné la parole. Hein. On a relayé des choses. Arlette Samba, elle relayait aussi ces histoires de résistance. Ouais. Bon, après, nous, on a exprimé notre point,
oui,
de vue.
Hein.
Moi, je sais qu'on m'avait branché quand j'étais dedans pour une grève de la faim. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Je ne me suis pas mis dans ce genre de choses. Bon, après, c'est un truc assez désespéré, voilà. Je le situe dans cet espace. Quand je dis ça, c'est pas un jugement, dire c'est des cons, c'est pas ça. Hein, c'est... Non.
Puis le temps que j'attends ma remise de peine, y a de la gangrène dans mes souvenirs. Vaut mieux en finir quand ça traîne. J'ai pas envie de moisir ici. Cayenne, c'est fini. Cayenne, c'est bien fini.
Allez les mecs!
Avec Christophe Soulier, nous allons évoquer l'expérience de Tolon du Lait, sur Radio Trouble Fête, une émission anticarcérale qui voit le jour sur Limoges au tout début des années 80.
Au boulot !
Vous êtes toujours à l'écoute de l'actualité des luttes sur 106.3.
Donc on a eu cette période où en plus il y avait cette arrivée de la gauche, comme tout changement à un moment donné politique, peut susciter un certain espoir dans les prisons. On l'a vu en 1974 avec Giscard, qui avait une apparence de libéralisateur, je ne sais pas comment on peut dire, en tout cas très vite déçu, qui a débouché sur les révoltes de 1974, quoi. Mais, et donc là, il y a eu aussi un espoir, pareil, qui a débouché après sur des révoltes importantes. Bon. Et il y avait d'autres luttes qui se menaient autour de prisonniers dits politiques. Donc pareil, on relayait. Très vite, on était connus, donc on recevait des textes. Mais on n'avait pas encore de prise avec le terrain local, ce qui nous, quand même, était notre aussi. On ne voulait pas rester sur du local, mais on voulait quand même être en lien.
Quels ont été vos axes d'intervention, enfin des revendications, vos axes de lutte ?
On a mené une grande campagne. Sinon, on était quand même de saisir ce qui se passait sans faire une campagne particulière. Bon, si, on posait la question. On a parlé du casier judiciaire, par exemple. C'était quelque chose qu'on suivait. Grosso modo, on se situait par rapport à la plateforme du Cap. Et donc, évidemment, il y avait suppression de la prison, on l'annonçait clairement, mais il y avait toutes les choses intermédiaires, j'allais dire, qui ont du sens, quoi, qui ont du poids, casier judiciaire, interdiction de séjour. Donc, on a pu relayer aussi ce genre de choses. Mais la contrainte par corps faisait partie des revendications qu'on avait. D'autant plus que moi, peu de temps avant d'être libéré, les gendarmes arrivent pour me signifier 4 mois de plus. Si je ne payais pas mes frais de justice. J'avais bien vu ce que ça signifiait, comment ça se passait. Sachant que ça allait jusqu'à 2 ans. Je ne sais pas si maintenant ils ont modifié, je n'ai pas suivi.
Tu vois, par exemple, ça, c'est vraiment un sujet sur lequel il faudrait retravailler. Parce qu'il y a où il n'y avait plus, où la lutte finalement a été gagnante, puisque c'est vrai que c'est vraiment une sanction de classe. Celui qui a de l'argent peut payer, celui qui n'en a pas reste en prison. Et puis là, c'est en train de revenir. Et d'ailleurs, on le voit avec Jean-Marc Rouillant. Je fais juste une parenthèse. Mais par exemple, personne ne se dit « faisons une campagne contre la prison pour dettes et essaye de rassembler l'argent ».
L'histoire de Jean-Marc Rouillant, effectivement, révèle ça. Et puis, il y a l'histoire d'un type que je déteste profondément, qui est Balkany, et qu'ils ont mis en tôle parce qu'il n'avait pas payé sa dette d'amende. Alors, je ne vais pas le plaindre, je m'en fous. Mais ça pose globalement la question qu'on réincarcère quelqu'un parce qu'il n'a pas payé.
Parce qu'il n'a pas d'argent.
Alors, ce n'est pas le cas de Balkany, sans doute. Mais bon, peu importe, c'est ce que ça signifie. Effectivement, Jean-Marc Rouillant, c'est ignoble. Quoi. C'est... Alors, la question de la contrainte, oui, moi, il faudrait retravailler là-dessus. On est vraiment devant la justice de classe, quoi, qui est impitoyable avec les pauvres et qui est très compréhensible avec les riches, quoi. Mais sauf que la contrainte par corps, c'est pas la justice, c'est le percepteur. C'est une peine qui est prononcée par le percepteur. D'ailleurs, on avait trouvé des axes de lutte là-dessus, et ça a marché, parce que je l'ai vu marcher au moins une fois. Il faut négocier avec le trésor, de commencer à dire, mais je vais payer, à l'époque c'était des francs, mais je mets un franc, donc je rentre dans un processus de remboursement, et il levait... en tout cas au moins provisoirement, jusqu'au moment où on pouvait renégocier. Il y avait ce type de stratégie dont on se faisait les relais, évidemment. On recevait aussi le journal Le Cap J, le comité d'action prison justice. C'était une de nos bases aussi pour discuter sur les moyens de résister au niveau de la justice et de l'institution judiciaire. Voilà, l'émission s'est construite autour de ça. Alors, la campagne qu'on a faite, qui a été notre grande campagne, et d'ailleurs, j'ai encore...
Non, mais là, carrément, tu ouvres une enveloppe cachetée...
Qui n'a pas dû être distribuée.
Voilà, qui n'a pas été distribuée.
À l'époque. Donc, c'était sur la liberté d'expression en prison. Je ne sais plus quelle date, ça doit être, à mon avis, c'est 1983. Déjà, à l'époque, on avait établi le contact avec la prison de Limoges. Mm-hmm. pas le quartier des femmes, on n'a pas eu de lettre, mais enfin avec le quartier des hommes, et donc on recevait du courrier. Y compris, on recevait des courriers aussi de femmes de détenus, même qui étaient en vacances, qui nous envoyaient des mots sympas. Bon, il y avait un lien qui s'était créé, et tout d'un coup, plus rien. Alors pas pour les gens extérieurs, mais pour les gens de la prison. On ne recevait plus de courrier. Donc on est parti de l'hypothèse que l'administration outrepassait son rôle en bloquant le courrier qui nous était adressé. Deuxièmement, à la même période, on diffusait un journal qui paraissait à Lille, qui s'appelait Otage. On est allé même le vendre à la criée devant la prison. Et donc on incitait les prisonniers à s'abonner. Donc on voulait savoir s'ils le recevaient bien. Parce que Otage nous communiquait la liste des prisonniers de Limoges qui étaient abonnés. Donc on savait précisément qui devait le recevoir. Et on le disait par radio en disant « il vous a été envoyé, ceux qui sont abonnés, vous savez que ça a été envoyé ». Et donc plus rien. On est parti de l'hypothèse que le surveillant chef, à l'époque il n'y avait pas de directeur, c'était un surveillant chef, c'était une petite prison entre guillemets, de 150 détenus. On s'est référé directement à Badinter, donc on a revendiqué la liberté d'information et d'expression pour les prisonniers. Donc on s'est calé sur Badinter, qui disait que la liberté d'information est fondamentale pour réguler la violence, pour pas que ça devienne le seul moyen d'expression.
Ouais, attends, donc, je cite direct sa citation intégralement. Hein, dans une société où l'information circule à sens unique, la violence devient souvent le seul moyen d'information.
Et donc c'était Badinter qui rédigeait, qui était sur le projet socialiste.
En 76.
Oui, donc ils étaient sur l'objectif de conquérir le pouvoir. Ouais. Et donc il avait mis ça comme apport au parti pour dire tout ce qu'ils allaient changer quand ils arriveraient. Ouais. Et alors, donc ça arrivait avant, on avait mis la photo de la prison de Limoges qui avait été éventrée lors de Noël 74. Donc c'est un garçon qui a voulu montrer, c'est prescrit, hein, il s'est fait prendre après, ils n'ont pas poursuivi, donc je peux dire que c'était un garçon qui a fait ça, qui a piqué un tractopelle la nuit de Noël, et qui allait défoncer le mur de l'atoll. Il voulait faire quelque chose par rapport aux révoltes de 74. Il avait fait une formation professionnelle pour adultes de conducteur d'engin. Je crois qu'il n'a jamais travaillé comme conducteur d'engin, mais il a fait ça. Il y a des belles affiches qui étaient sorties, qui s'appelaient Abattement de zone. C'était pas nous qui les avions fait, c'était d'autres groupes. Et donc on a repris la photo de la prison.
D'enceinte
totalement
détruite.
Ouvert, oui, voilà. Et à côté, on avait trouvé une silhouette de Maton, donc il s'appelait Girardi. Donc on l'a appelé Girbarbie. La maison d'arrêt de Limoges telle qu'on la rêve, et son surveillant-chef tel qu'on le cauchemarde. Ça, c'est un tract qu'on a fait, co-signé par le CAPJ, Comité d'action prison de justice, et Tolon Dulé. On dit Badinter, on l'a informé de ce qui se passait à Limoges et il se tait. Et donc il n'est pas cohérent avec ce qu'il a dit avant. Donc on a lancé l'action. Alors c'est là qu'on rappelle l'existence de notre émission de radio en disant que visiblement il interdit la correspondance avec notre émission puisqu'on ne reçoit plus, comme disait Lapéry à l'émission de radio, un prisonnier qui n'écrit pas une radio à une émission qui lui est consacrée, c'est comme, je sais pas, c'est impensable. Il y a forcément un certain nombre de gens qui vont écrire, et puis qui écrivaient avant, donc on avait quand même une base. Alors, on reprend Badinter, la réussite du socialisme français dépendra largement de sa capacité à assurer une réelle liberté d'information. Donc on les met devant leurs contradictions. Et alors, on dit après, M. Girardi a décédé l'échec du socialisme. On le charge, on le désigne comme l'ennemi des socialistes, en disant que c'est vraiment ce genre de personnages qui vont faire obstacle au changement de société. Alors, on s'est beaucoup marré en le faisant, ce truc. C'est-à-dire que, oui, quand on met une phrase comme ça, un petit surveillant-chef d'une prison qui veut mettre fin à un système qui est en train de se construire. Et donc, on rappelle que c'est à Badinter de se faire obéir. Et à ses camarades du Mougeot, donc du PS, d'exiger que M. Girardi cesse de bafouer les libertés mentales qui font qu'un homme ne peut être traité en bête. Alors ce tract, il se trouve qu'à l'époque, pour d'autres raisons, j'avais une imprimerie chez moi, une offset, et j'avais un banc photo, donc très vite, on pouvait on n'avait pas Internet, mais on pouvait tirer 1000 tracts. Donc on a commencé la campagne, un camarade du Cap-J est venu s'installer chez nous, on était vraiment... On analysait les réactions et à partir de ça, on faisait un nouveau tract. Donc celui-là, il a été diffusé massivement. Donc on l'a mis sous enveloppe. Là, je viens d'ouvrir, c'est une enveloppe qui reste. Donc on est allé sonner à la maison d'arrêt de Limoges pour qu'il soit amené au fameux surveillant-chef. Il a eu en premier, avant tous les autres, il a eu l'exclusivité. C'était la méthode du Cap. Quand il menait une campagne, les personnes mises en cause étaient les premiers informés de ce qui allait se passer sur leur compte. Et on allait au palais de justice. On l'avait mis, monsieur le premier président de la cour d'appel, monsieur le procureur général. On a fait des enveloppes qu'on a amenées au concierge. On lui a dit, voilà, c'est un courrier urgent. Donc il est parti lui-même distribuer, comment s'adresser à des gens importants. Il allait distribuer nos tracts dans les différents bureaux pour qu'ils sachent aussi ce qu'on allait faire. On en a mis aussi pour les avocats. Et puis tous les élus socialistes, puisqu'on voulait rappeler aux socialistes locaux qu'il fallait qu'il se bouge par rapport à un ennemi du socialisme qui était présent dans la ville. Et après, on en a distribué aussi dans aux lycéens, dans différents, on a ciblé après des publics. On a tracté assez massivement. Et donc, ça a créé un événement. Et on a tracté, évidemment, devant la prison pour les familles. Et puis, même ceux qui intervenaient. Je me suis un l'aumônier. C'était mon pauvre Christophe, tu es descendu bien bas. On s'était côtoyés par ailleurs. Dans un milieu assez réduit, ça aussi c'était la méthode du Cap, toujours cibler des milieux, et à partir de ça, faire monter la sauce dans ce milieu, parce qu'ils vont se parler les uns les autres, ils vont amplifier. Et c'est vrai qu'on a vu que sur un mois de pilonnage, ça a monté. On a fait des émissions radio, où là, on a fait le procès de l'ennemi du socialisme. Et alors, il y a des gens qui intervenaient, il y a des travailleurs sociaux qui disent « vous vous trompez, vous faites mon... » On crée un climat, c'est explosif apparemment. Et on l'a su après par des détenus qui étaient là. Tout le monde écoutait, même les matons, comme c'était leur chef qui était mis en cause, ils se marraient. Ça devenait ingouvernable pour lui et ils l'ont muté très loin. Et le courrier est repassé. Et nous, on avait lancé, on a appelé ça une commission d'enquête. Pour enquêter sur les pratiques de cet ennemi du socialisme. Et donc on a indiqué les moments où on serait devant la prison pour rencontrer les personnes qui avaient des choses à nous dire sur ce type. Il y a des lycéens qui sont venus, il y a des familles évidemment. Je me souviens de personnes qui arrivaient, on vendait le journal otage, on avait donné le prix, qui arrivaient avec la pièce de monnaie qui correspondait au prix du journal. C'était visiblement important de lire otage. Et une avocate, Babateur Bacher, est venue et a laissé entendre aux prisonniers qu'ils pouvaient lui écrire, la prendre comme avocate, donc écrire sous pli avocat pour lui signaler... l'arbitraire qui se passait dans la prison. Ce qui n'a pas manqué, il y a eu un certain nombre de lettres qui sont arrivées par ce canal et qui expliquaient qu'ils étaient abonnés otages et qu'ils ne le recevaient pas, qu'ils avaient écrit que les lettres, visiblement, donc ça ne nous était pas parvenu. Ça nous a fait une base pour continuer la campagne, avec là des choses matérielles, quoi, précises. Par contre, notre radio a perdu ses subventions. Avec les réponses des institutions d'État, vous avez une émission pas sérieuse. C'était nous l'émission pas sérieuse. Sachant qu'à l'intérieur de ce mouvement des radios libres, il y en avait qui voulaient être reconnus, qui voulaient leur place dans le champ. Des radios associatives à but non lucratif. C'était en train de s'institutionnaliser le statut avec les radios locales privées et avec un statut associatif, avec le fameux fonds de péréquation qui était destiné à ceux qui ne faisaient pas de pub. Et donc là, on avait des opérateurs culturels qui commençaient à arriver et qui voyaient quand même d'un mauvais œil les émissions de contestation.
Je prends ce truc parce qu'il se trouve que nous aussi.
Tu peux même prendre une enveloppe aussi.
Je me rappelle à Parlons Libre et l'association des parents amis de détenus, on a fait nous aussi une campagne contre la censure. Voilà, et je te donnerai tout.
D'accord.
Comme ça, tu peux en causer.
C'est ce qui a préfiguré notre émission. Sortie de prison, on a monté un collectif qui s'appelle Clarès.
Ça veut dire quoi,
Collectif Clarès Limousin, d'animation des ressources et d'expérimentation sociale. Donc, on s'est mis, on joue la carte du socialisme, ils veulent développer l'innovation sociale, banco, on y va. Et on a fait un catalogue des ressources culturelles et sociales du Limousin. Donc on s'est fait financer par la DRAC, par la préfecture, même au tout début on allait les voir, ils ont mis un bureau à notre disposition pour qu'on puisse regarder le fichier de la loi 1901, avec des gens qui jouaient le jeu, qui nous amenaient les dossiers. On sentait un vent nouveau, et donc je rentrais dans la préfecture avec mon collègue et on allait s'installer. Et donc derrière, on avait quand même l'idée de la prison et de l'enfermement en sous-main. Et donc voilà, on a commencé une campagne. Donc on allait dans les lycées agricoles, dans les établissements scolaires pour parler de la prison.
Et ça, c'était en quelle année, ça ?
Écoute, ça doit être... c'est début 80, c'est la même période.
Ouais, hein. Juste après les
élections. Tu vois, donc on avait fait ce... Si tu le veux.
Ouais, qu'est-ce que la prison ?
Donc ça, c'est le Clarès. Donc après, attends, ça, c'est d'autres... Dans mes pérégrinations, j'ai rencontré des élus qui venaient de, par exemple, Sarreguemines, tu vois. Bon, c'est autre chose. Donc ça, je ne sais plus. Alors ça, c'était le journal Prison, c'était Loquin. Comité d'action des prisonniers, BIS, c'était un nouveau truc qu'il avait lancé. Là,
mais ça, c'est une cellule d'isolement.
Oui, c'est ça.
C'était contre les QHS.
Sûrement. Mais tu vois, si tu en veux un, il y en a... Alors là, c'est un avocat qui nous l'avait envoyé, tu vois, il y a un tampon.
Ah ouais.
Là, c'est le Yo-Yo, c'est un journal, tu as connu ?
Mais oui, ça me dit quelque chose. Je crois que
c'était muré, mais c'était un journal fait dans le cadre
à l'intérieur. Hein. Mais justement, dans cette espèce d'ouverture après 81, où tu avais les sociaux qui pouvaient faire des journaux.
Donc il y a eu des réunions. Il y a eu Pénélope pour les femmes à Rennes. Et il y avait le Yo-Yo, c'était les deux grands journaux. Alors là, c'était un truc qu'on avait fait. C'est là qu'on a connu en fait Lapéry, Le Sage, Vergès. On avait monté trois jours. Toujours dans le cadre de notre Clarès, avec une expo sur la prison qu'on appelait Mur. Donc on a passé un film, un débat avec Vergès, un débat après avec Le Sage de la Haye, puis il y avait Lapéry qui était là, oui. Et puis Vergès était venu avec des gens de la RAF, Petra Kraus, je sais pas, qui était une femme qui avait fait beaucoup de prison, qui avait été un peu un symbole en Suisse, elle avait été arrêtée en Suisse. Elle était maintenue dans des prisons d'isolement, comme on avait vu en Allemagne, à Stammheim. Et donc elle était là. Ce week-end pour nous a été un succès. Et c'est là qu'est née l'idée de faire la défense libre, les deuxièmes assises. C'est qu'ils cherchaient un endroit. C'était donc Lapéry, Vergès. Il y a eu la Sainte-Baume avant. Et un de mes copains de Limoges était à la Sainte-Baume. Il savait le lien. Ils cherchaient un deuxième, refaire le point sur les pratiques de défense. Et donc, ça a été Ligour, à côté de Limoges, et ça s'est fait lors de ce week-end. Et d'ailleurs, c'était marrant, parce que quand Barbie venait juste d'être extradé, et qu'à un moment donné, ça avait mis un froid dans la salle, quoi, un frisson plutôt, Vergès qui disait, il y a quelqu'un qui a dit, mais de toute façon, même si Barbie demande à Vergès, il ira, parce que ça peut être intéressant. Mais c'était d'un point de vue évidemment critique, ce qui n'est pas devenu le cas après. Il n'en était pas question à ce moment-là. Hein. Donc ça, c'est un week-end qui nous a fait beaucoup connaître aussi. Mais c'était avant l'émission. Donc là, ça, c'était Saint-Maur, 1982, tu vois, la prison de Saint-Maur.
C'est un questionnaire.
C'est un questionnaire. Donc c'était sur la pratique un peu du groupe Information Prison.
Et je trouve ça très intéressant, cette idée de questionnaire. Nous, on en avait fait aussi à Parloir Libre et aussi avec l'Envolée, pour essayer d'abord de mieux comprendre la prison.
Par le fait de l'enquête, ça permet
d'avoir vraiment une vision plus claire de ce que les formes que prennent l'enfermement.
Et comparative.
Nous,
on avait des contacts à Saint-Maur, par le biais d'une copine qui allait au parloir et qui avait un compagnon qui y était. Donc c'était une prison d'où on avait de l'information. Tiens, voilà une revue culturelle de Limoges qui était sortie avec l'image de la prison défoncée.
On voit bien le
mur qui sépare deux mondes en deux. Et ils avaient fait une expo là-dessus.
Ouais,
et c'est les photos qu'on avait pu reprendre. Émission Prison Justice... Limoges, alors ça, Donc avant, c'était des émissions qui n'avaient pas de nom, ouais, qu'on a fait de manière informelle. Mmh. Donc ça veut dire qu'en 15 avril 82...
C'est la constitution de Toulon du Lait.
Mais si tu veux le document...
Ah ouais, je veux bien, ouais.
Mais en fait, c'est dès début 81 qu'on a commencé. Mais... Alors là, ah ben c'est les documents de l'époque, manuscrits. C'est l'écriture de Jean Lapéry. On avait fait cette brochure qui était un truc d'information basique, hein, sur la prison, avec des textes. Bon. Donc ça nous servait de support pour les lycées agricoles, pour les établissements scolaires, pour les écoles d'éducateurs, pour tous les milieux. Et on était invités dans les écoles d'infirmières aussi, donc c'était un moyen d'intervenir sur des gens. Donc ça, c'était le mec avec qui je bossais, il avait des fiches, alors, la garde à vue, il avait travaillé sur 1000 grammes, la soumission à l'autorité, d'essayer de comprendre. Donc dossier mouvement en prison, il doit être nettement... il a dû partir en partie ailleurs, parce que... Tu vois, les revendications, Clairvaux, Saint-Étienne, on avait les textes qu'on pouvait diffuser. On se déplaçait aussi, on allait dans la région informer sur la prison. C'est un texte qui nous était arrivé, mais il n'y a pas l'année. Beaucoup de trucs ne sont pas datés, c'est ça le problème.
Ouais, dommage. T'en fais voir la population pénale là,
C'est vrai que c'est autour de 35 000 prisonniers.
Non, mais c'est intéressant de voir, par exemple, là, justement...
Parce qu'on allait lire, voilà, on allait à la fac de droit, où en plus les bibliothécaires...
En 1972, il y avait 30 000 prisonniers.
Vrai, et 80
000... Quand même, là, regarde, excuse-moi, ouais, 75, 25 000...
Et après, ça remonte.
80, ça
mais
remonte.
Pour nous, c'était 30, énorme.
35 000, oui. Alors que là, maintenant, on est à 70 000. Quoi.
Oui,
donc, ça va très, très vite. Et là, avec la construction des nouvelles prisons, ils sont déjà en train d'anticiper vers les 80 000.
Les cadors, on les retrouve aux belles places. Les autres c'est Saint-Maur, Châteauroux, Palace, plus tiers. Des mains font des verres à lire, d'autres des revolvers qui tirent. Le monde voit le monde en riant, et pourtant les cadors on les retrouve aux belles places, nickel. Les autres, c'est Saint-Maur, Châteauroux, Palace, plus de ciel. On aime le sud et le gel, on veut de la musique et des choses pareilles qui poussent les gens devant le vent. Et puis les cadors, on les retrouve aux belles places, nickel. Les autres, c'est Saint-Maur, Châteauroux, Palace, plus de ciel. Le même désir de pas de mort, de l'amour encore et encore. Les enfants sont comme les enfants, et pourtant nickel. Les autres c'est Saint-Maur, Châteauroux, Palace, plus de ciel. Tomber aux mêmes dentelles fines, à la même jolie chadée et les mêmes jeans, pareillement sous la pluie longtemps attendant.
La conquête des trottoirs des prisons avait été fondamentale à un moment donné pour le Cap, pour vendre le journal. Ils en ont fait un enjeu qui était à la fois économique, de vendre pour faire vivre le journal, mais aussi pour que ça circule, ouais, que par les visiteurs, que ça rentre à l'intérieur et qu'il y ait du retour. Ils avaient monté des luttes exemplaires qui sont relatées dans le journal. Et là, on était sur la même, on va dire, au niveau radio, je crois que c'était la même optique qu'on avait. On a été sur les trottoirs de la prison aussi. On voulait conquérir un espace.
La force de la radio, l'importance des émissions de radio anticarcérales, elles ont perdu un petit peu de force avec l'arrivée de la télé. En 86, ouais. Les prisonniers écoutaient moins la
bien
radio,
sûr.
Mais s'abrutissaient devant les écrans 24 heures sur 24 pour certains.
Oui, je pense que c'est la parade. Quoi, c'est peut-être pas...
Ah si, c'est la parade, parce que ça n'a jamais été une revendication des luttes des prisonniers.
Je pense que quand je dis c'est la parade, ce n'est pas forcément la parade aux radios. C'est une manière plus globale, c'est une manière de faire de l'occupationnel pour coloniser l'espace mental. Comment le lait, le cerveau disponible, hein. Oui. Après, les radios, c'est sûr, ont été télescopées par ça, comme beaucoup d'autres trucs. C'est Badinter, oui, avec des locations en plus. Donc,
il y a la télé qui a changé pas mal depuis les années 80, quand même les rapports, mais aussi l'arrivée d'Internet et des téléphones portables, puisque bon, même si l'administration fait la chasse aux téléphones portables, ils circulent à l'intérieur de la détention.
Et avec la complicité de la pénitentiaire.
Et avec la complicité, en tous les cas, de certains surveillants. Mais ça permet à la fois, là, maintenant, d'avoir éventuellement des photos, des images, des films, des textes, des paroles de prisonniers.
Et qui échappent au contrôle de l'administration. C'est ça, donc ça recrée un autre espace.
Un autre espace, mais qu'il faut arriver, parce que c'est un espace qui est tellement marchandisé. Comment le rendre transgressif, je ne sais pas comment dire, comment le rendre...
Oui, en faire un espace de lutte. En tout cas d'expression et de construction d'un sujet en lutte, je dirais.
Un sujet commun,
commun, et pas un, mais de groupe. J'ai travaillé sur le comité d'action des prisonniers, donc j'ai vu l'évolution dans les années 70. Les luttes collectives, c'est jusqu'à la réforme de 75 qui institutionnalise les quartiers de haute sécurité. Et donc la stratégie d'individualisation avec le régime centre de détention pour ceux qui se tiennent peinards, mais central pour ceux qui sont entre les deux, quartier de sécurité renforcé pour les autres, pour les révoltés. Et ce régime a individualisé les luttes. C'est-à-dire qu'effectivement, de lutte collective, on est passé à des personnes un peu comme les refuseniks en Union soviétique ou les dissidents qui vont être seuls face à un système et qui vont trouver à partir de là du lien avec d'autres, mais qui vont mener une lutte seule.
L'administration pénitentiaire a complètement exploité ce phénomène, puisque même dans les maisons d'arrêt maintenant, tu as plusieurs niveaux de régime. Donc là, il y a vraiment une individualisation au plus près de chaque prisonnier, en fonction de leur comportement, équivaut une incarcération particulière, du coup très difficile de construire, plus difficile
en tous les cas, collectif.
Voilà, de construire des luttes collectives.
Et ça, c'est une gestion pensée. Ils ont tiré les leçons des révoltes des années 70 jusqu'à... Oui, parce que là, il y a eu du collectif. Alors moi, ce que j'ai vu, c'est déjà, et j'ai vu dans les prisons, moi j'étais après 74, donc après les révoltes, ils avaient déjà tiré des leçons. L'accès au toit des prisons était impossible. Il fallait vraiment beaucoup d'énergie. Ils avaient mis des barreaux, des portes grillagées.
D'ailleurs, depuis les années 80 aussi, par exemple, t'as presque plus, à ma connaissance même, t'as plus d'expression sur les toits.
Oui. Mais parce qu'on ne peut pas y accéder. Alors que le toit était la manière de s'adresser à l'extérieur, d'être visible et de se construire en sujet collectif. Mais aussi, les prisons qui construisent, elles sont loin des villes maintenant. Alors qu'à l'époque, on prend la prison Charles III à Nancy, elle est dans la ville, en plein centre.
Marseille,
voilà,
Toulouse,
les Beaumettes, alors c'est un petit peu sur les hauteurs, mais enfin c'est dans la ville. Et ça, ils ont réglé le problème là-dessus aussi. Et puis le foncier est moins cher, plus loin, donc ça permet de faire des belles opérations financières avec l'espace carcéral qui se libère dans les centres-villes. Alors qu'avant, c'était un exemple pour la population. Vous voyez ce que vous risquez si vous ne tenez pas à votre place. On avait ces prisons avec une façade opaque, des murs, des hauts murs. Et maintenant, ça, ils n'en sont plus là. Quoi. C'est...
Les cadres, on les trouve aux mêmes places. Nickel. Les autres, c'est Saint-Maur, Château ou Passe, le ciel.
comme dans les années 80, les luttes anticarcérales se sont saisies des ondes pour essayer de passer à travers les murs. Là, il y aurait peut-être une réflexion, du coup, pour ceux qui poursuivent ce combat,
avec Internet,
avec la question des téléphones portables et d'Internet, où les informations peuvent circuler et sont extrêmement sanctionnées. C'est-à-dire que quand il y a eu, là, ces dernières années, des images de refus de remontée de promenade, de lutte à l'intérieur des prisons, les réalisateurs en herbe ont été lourdement sanctionnés. Pareillement, une volonté de censure et d'empêcher l'information de circuler.
Parce que je pense que l'enfermement repose aussi. C'est constitutif de l'enfermement aussi. En plus des murs, en plus de la coercition directement physique, il y a une coercition mentale, je ne sais pas comment dire, en tout cas, de faire intérioriser complètement l'enfermement et le fait que on ne reçoit pas de l'information non contrôlée de l'extérieur et on n'envoie pas de l'information non contrôlée. La pénitentiaire, ils veulent tout contrôler. La parole en fait partie. De ce contrôle en prison, les communications existent. Il y a le yo-yo, je ne sais pas s'il est tellement possible. En tout cas, à l'époque, moi j'ai vu des prisons de haute sécurité où là, c'était impossible de faire du yo-yo avec des barreaux en béton, avec des grilles, tout un système de... Mais bon, il y a d'autres prisons où c'était possible et je l'ai vu faire. Se parler avec un miroir pour voir les visages aussi, les tuyaux de chauffage, transmettaient de l'information. Mais malgré tout, c'est très limité.
Dès qu'il y a un système de communication qui peut exister, hop, de comprendre comment on peut le neutraliser.
Ou le contrôler complètement.
Parce que le fait qu'il y ait des tout petits grillages maintenant fait que tu ne peux pas passer forcément ta main pour miroir, par exemple.
Oui, c'est ça, voilà. Et même pour le yo-yo, ça doit poser des problèmes.
Il y a toujours des yo-yo, c'est de plus en plus compliqué.
Oui. Pour ça que moi qui avais vécu donc, ce manque, il me semblait que c'était important. J'écoutais France Inter, évidemment, donc Radio d'État, c'était plus ou moins contrôlé. Il y a eu des grands mouvements sociaux pendant que j'étais en prison. J'écoutais ça par l'intermédiaire, je pense à la Lorraine, les événements de Lorraine en 79, Plogoff, j'écoutais ça. Mais j'avais une confiance relative dans ce qui m'arrivait. Alors j'écoutais Radio Alger. On était un certain nombre à se brancher sur Radio Alger. Il y avait une chaîne en français, Alger 3. Mais bon, après, c'était une autre radio quand même contrôlée. On avait une autre source, c'est tout. C'est pour ça que tout de suite, moi, j'ai senti que c'était un terrain important à assumer. C'était pas nous, c'était pas une finalité. C'est aux personnes de se battre. Mais c'était, je veux dire, on parle pas à la place. Mais par contre, on crée un préalable qui permet d'échanger. Je reviens au mouvement des prisonniers des années 70. Il se construit quand même à partir des cahiers de doléances qui sortent, sans doute clandestinement. Je ne vois pas comment ils auraient pu les envoyer par le circuit normal, sachant que même le courrier était très, très contrôlé, même en volume. Il y avait un nombre de lignes à un moment donné qui était... Il y avait plein de contraintes. Donc je pense que ça passe par des gens complices, style travailleurs sociaux, aumôniers. Et c'est une revue qui était une revue catholique, Esprit, qui a relayé tout ça. Quand on lit les numéros d'Esprit de l'époque, c'est très fort parce qu'il y a des revendications basiques.
Les revendications aujourd'hui restent les mêmes. Suppression des quartiers de haute sécurité, des quartiers d'isolement, suppression du mitard, le SMIC pour les travailleurs,
il y a la peine de mort,
droit d'association, la peine de mort
on peut dire,
plus.
On peut dire suppression des peines incompressibles.
Exactement.
Qui remplacent la peine de mort. Quoi.
Exactement. Et puis plus de liberté provisoire, conditionnelle, RPS et compagnie.
Oui, alors c'est ça. En même temps que le nombre de prisonniers augmente, et que ça devient de plus en plus... Ils construisent des prisons, ils vont continuer à en construire. Bon.
C'est une forme de gestion de la pauvreté et des réformes qui sont en train d'être mises en place, notamment concernant celle des retraites et du chômage, qui, à chaque réforme, se durcit et qui met au banc de plus en plus de personnes... Donc du coup susceptible de commettre des délits et c'est une forme de gestion, de la misère.
C'est comme dans les CAF, qui est quand même une branche de l'assurance sociale. Maintenant ils recrutent des vigiles, des videurs. On connaît quelqu'un qui était videur dans une boîte, qui est maintenant videur à la CAF. C'est-à-dire qu'ils sont dans une dynamique de violence par rapport aux catégories populaires.
Et aux révoltes de ces catégories-là.
Oui, voilà. les lieux qui gèrent ça sont directement confrontés aux lois et au système de merde qui est imposé par le pouvoir. Je pense que la pénitentiaire, c'est pareil, la police aussi. Donc oui, les revendications, c'est vrai que le casier judiciaire, c'est aberrant d'un point de vue dit de la réinsertion. Ça correspond au tatouage des bagnards, et c'est un tatouage informatique maintenant. Et pourquoi enfermer à vie une personne dans ce qu'elle a fait, même du point de vue de la loi, quelqu'un qui a payé entre guillemets sa dette, pourquoi on maintient un instrument d'exclusion ?
Ad vitam.
Ad vitam, bon, après il y a des procédures. Quand j'avais voulu mener une lutte, quand j'ai vu que on changeait d'époque aussi, donc après je suis passé dans une procédure dite de réhabilitation, entre guillemets, qui a fait que, bon, à un moment donné, mon casier a été nettoyé, ouais. Plus de 10 ans après.
Enfin, là, il faudrait même aussi s'interroger, je pense que ça peut être aussi un sujet d'études assez intéressant. L'État et son administration favorisent les amendes. Là, maintenant, c'est des amendes à tout va. Tu traverses, tu te gares, tu ci, tu ça, tu manifestes.
On l'a vu pendant le Covid.
Et pendant les Gilets
jaunes. La fameuse amende de 130 euros, et puis les Gilets jaunes sur des trucs merdiques de stationnement.
Carrément. Et donc maintenant, c'est l'argent. C'est-à-dire, vraiment, c'est mettre les gens en dette de la société.
Oui, c'est ça.
Et comme tu pourras de toute manière jamais payer ces amendes parce qu'elles sont complètement prohibitives, donc du coup, tu es en dette.
Et vulnérable. Ouais. Mais c'est le même système qu'ils ont fait en développant le crédit pour les prolos, quoi, pour faire construire leur pavillon. Ouais. C'est une manière de museler les gens. Et maintenant, ils vont au-delà avec les amendes, oui.
Ça rejoint aussi d'incarcération pour dette, impossibilité de payer ton amende, donc du coup, tu fais des jours amende incarcérée, etc. On revient un peu, finalement, à toutes ces notions-là qu'il faudra absolument combattre.
Une violence de classe qui est directe, quoi, qui est claire, qui est franche. Quand on voit l'évolution du nombre de prisonniers, il y a aussi une pénalisation de plus en plus grande, je pense. Des pratiques, des actes.
Des actes.
Ils étendent la pénalité à des secteurs où ils n'étaient pas avant.
Il y a à la fois ça et à la fois la longueur des peines, qui fait que les prisonniers restent plus longtemps.
Les stocks et les flux, comme ils disent.
Voilà, les stocks et les flux. Ça stocke plus longtemps.
Oui,
quoi,
voilà. Les flux sont moins. Et le stock, du fait du vieillissement de la population pénale, est le symptôme de ça.
Ouais, les peines sont vraiment de plus en plus longues. Depuis les années 80, les peines de 5 ans ont triplé. Pour un délit où il y a encore 30 ans, tu aurais pris un an, maintenant tu prends 5 ans. Donc forcément, donc, du coup, les prisonniers restent plus longtemps à l'intérieur.
Et toute tentative pour essayer de faire diminuer le nombre de prisonniers devient un instrument de pouvoir supplémentaire. Je m'explique. Le sursis probatoire est apparu à un moment donné pour essayer de trouver qu'on ne mette pas la personne en prison, mais qu'on le mette à l'épreuve dans un sursis dit probatoire. En fait, ceux qui avaient le sursis probatoire, ils auraient eu un simple sursis, ils n'auraient pas eu de la prison. Ouais, donc c'était un moyen de punition supplémentaire.
Mais comme les bracelets, c'est pour ça, c'est vraiment cette idée, ça c'est vraiment repris vachement souvent par la gauche, parce qu'ils essayent de trouver un échappatoire, tu as trouvé une solution qui n'en est pas une. C'est-à-dire qu'ils nous parlent de peine alternative, alors que nous, parle de peine supplémentaire.
On l'a vu avec le travail d'intérêt général. Des gens qui avaient des tiges, ils n'auraient pas eu de prison non plus. Mais par contre, il y avait un outil qui permettait de les punir d'une certaine manière, au moins une punition en plus.
Et là, on est quand même à 180 000 personnes suivies à l'extérieur.
Avec des bracelets ?
Mais pas seulement avec des bracelets, avec des contrôles judiciaires, avec tous ces trucs-là, tu vois. Le fait d'aller voir un psy, le fait de devoir travailler sans statut en tôle, etc. Et ça fait énorme, comme ça paraît beaucoup moins répressif. Donc du coup, les juges s'en donnent à cœur joie et, le nombre des gens suivis à l'extérieur, c'est-à-dire enfermés dehors, est de plus en plus nombreux. En plus, ça ne coûte rien, donc c'est cool.
Oui. C'est vrai que le bracelet, par exemple, s'en prend ça, c'est la prison à domicile. Effectivement, c'est la personne qui assume
Sa nourriture, son logement, son électricité, et puis sa compagne, éventuellement, et ses enfants font gardien.
C'est ça. C'est une laisse plus ou moins longue qui doit être négociée avec le juge, je suppose, la longueur de la laisse. C'est quand même un système qui fait que la prison, matériellement, peut-être ne va pas augmenter de manière exponentielle, elle augmente quand même, mais ils augmentent l'emprise de la prison à domicile, de la prison ou de l'assignation à résidence, de ne pas pouvoir quitter le département, la ville, etc. Et puis avec les moyens maintenant, alors de vidéosurveillance et reconnaissance faciale, on imagine, quand on voit le système mis en place en Chine avec des notes des citoyens. On se dit qu'ils vont nous le vendre, ce système. Hein. Ils ont des usines qui sont capables de le fabriquer. Donc,
Et puis avec, selon ton comportement, la possibilité d'aller dans tel quartier, tel endroit, avoir la possibilité d'aller dans tel match, tel loisir, tel, etc.
Et puis nous, avec les Jeux Olympiques qui se profilent, avec le phénomène dit des hooligans du foot, ils ont mis déjà en place des systèmes de fichage, de reconnaissance, qui sont quand même... Bon, récemment, il n'y a pas très longtemps, j'ai revécu une expérience là où on m'a fait passer à l'anthropométrie policière. Et j'ai vu qu'ils ont nettement perfectionné leur système par rapport à ce que j'avais vécu il y a 40 ans. Notamment au niveau, au niveau des empreintes. Bon, les empreintes, c'est plus avec de l'encre, c'est du scan électronique. Ils scannent la pomme, moi, on ne l'avait pas fait. Au niveau des photos, il y a évidemment face et profil, mais il y a trois quarts, il y a de dos, il y a plein d'autres systèmes. Ils ont affiné la chose. Donc je me suis dit, tiens, là, on est dans une dynamique de reconnaissance faciale future, de liens. Ils se créent des fichiers quand même performants au niveau des informations qu'ils recueillent sur une personne. Et je ne parle pas des empreintes génétiques, évidemment, m'ont été prises à mon insu pendant un certain nombre de fois. Et ouvertement, au moment où il m'arrêtait et où il me mettait les menottes dans le dos, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous prenne les empreintes? Mais tac, j'avais déjà le truc qui prenait ma salive dans la bouche. Qu'est-ce qu'ils en font, ça? Sachant qu'avec les empreintes génétiques, ils fichent une partie de la famille aussi. Il y a des liens qui se font avec d'autres choses. Donc c'est quand même gravissime, je trouve, sur le plan des... du droit à l'anonymat, entre guillemets, et à vivre, et pas avoir à répondre d'injonctions sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on est, et sur cette normalisation. Parce qu'effectivement, ça a été dit, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, que la norme, petit à petit, se substitue même à la peine. C'est-à-dire qu'on va avoir une norme qui... À la loi, je veux dire, hein, pas à la peine. C'est la norme qui va imposer des comportements, et donc si on fait un écart, c'est là qu'il y a l'amende. On est même plus dans une logique... De loi, de droit.
Ou même d'espace où tu peux même t'expliquer, oui. Où tu peux discuter, où tu
mais
peux
oui, puisque te. Maintenant, ça puisque devient une injure ou un outrage.
Non, puis tu reçois l'amende et puis voilà, tu peux la contester, on te dit merde, et puis du coup, tu n'as plus d'espace de critique, de contestation, de remise en question, d'appel.
Moi, je vois le premier confinement avec ce fameux truc des produits dits essentiels pour les courses. Où en tout long on sentait que ça mettait les flics en position de juger, eux, ce qui était essentiel ou pas, et de verbaliser. Alors, j'ai des témoignages, moi, je circulais le moins possible pour aller faire les courses. J'avais pas envie de me retrouver dans cette situation où le flic regarderait mon panier, voir ce que j'avais acheté ou pas, et de juger, lui, si j'avais outrepassé la tolérance qui nous était faite pour circuler. Et ça me rappelait la prison. Et je me dis, tiens, là, ils ont étendu la prison matériellement à toute la société avec la menace d'une amende de 130 euros. Et au bout de trois fois, c'était une grosse amende plus la prison. Donc ça donnait un pouvoir exorbitant aux flics de les mettre en position de juge de notre vie et de ce qu'on était. Ça me rappelait les matons qui, effectivement, ont un pouvoir exorbitant sur les prisonniers ou les personnes qui viennent au parloir. Alors après, on voit que c'est des cabinets de nudge, on dit comme ça, qui ont conçu ce truc avec l'attestation, simplement pour...
L'auto-attestation.
Oui, l'auto-attestation pour qu'on s'auto-désigne, auto-dénonce, faire intérioriser. C'était pour qu'on intériorise la contrainte. C'était même pas une problématique de santé publique. Ouais. On était dans la gestion des populations. Ouais. Donc ça file encore plus les boules quand on voit... Que c'est une arnaque, quoi, mais qui renforçait le pouvoir.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de... Ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat
et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital.
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.